à l'écoute des programmes de Studio Kalungu. Il vient d'être à 17h. Le journal de ce lundi 9 août, c'est dans une présentation de Nefis Adam Sirfou. Au sommaire, plusieurs cas de choléra, dont des décès, sont rapportés dans trois régions du Niger. L'annonce a été faite ce matin à Niamey par le ministre de la Santé publique. À suivre, Dr Ilyas Menesra dans quelques instants. Plusieurs dizaines d'habitants de Banyvongou sont arrivés ce week-end à Baleyara, région de Tillabéri. Ils ont fui les récentes attaques de leur village par des hommes armés non identifiés. Le témoignage de ces déplacés est à suivre dans ce journal. Le magazine Justice de ce lundi nous édifiera sur les sanctions pénales qu'encourt tout fonctionnaire, officier public ou tout agent d'une administration qui commet un faux dans l'exercice de ses fonctions. Bonsoir à tous et bienvenue. À la date du 6 août 2021, plusieurs cas de choléra ont été détectés au Niger avec 12 décès dans les régions de Maradi, Zender et Dosso. C'est ce qui ressort d'un point de presse tenu ce matin par le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyasou Menesra. On l'écoute dans cet extrait.
La plupart des cas sont en lien avec une épidémie qui sévit depuis plusieurs mois au niveau des régions voisines frontalières. Les districts sanitaires touchés sont ceux de Tanout, Magria, Damagaram Takaya, Miria de la région de Zender, Maradi commune, Madarumfa et Gidarumji dans la région de Maradi, Gaya et Dogondouti dans la région de Dosso. Au niveau des trois régions, la situation se présente comme suit. Région de Zender, 125 cas dont 9 décès. Région de Maradi, 85 cas dont 3 décès. Région de Dosso, 3 cas dont 0 décès. Des dispositions ont déjà été prises, à savoir prépositionnement des kits choléra, tests de dépistage rapide, mise en place des sites d'isolement et de prise en charge des cas au niveau des foyers.
Des propos du ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyasou Menesra, recueillis par Fante Chamsou. L'humidité est l'un des facteurs provoquant la prolifération des mouches ces derniers temps à Niamey. Selon un entomologiste interrogé par notre reporter, les mouches qui se reproduisent dans des endroits insalubres peuvent être source de maladies, d'où la nécessité de respecter quelques règles d'hygiène. Docteur Garba Madougou, que je vous propose d'écouter.
La prolifération des mouches, c'est tout à fait normal. C'est leur période idéale de reproduction. Maintenant que les conditions hydriques au niveau sol, au niveau de l'air, sont très favorables avec la pluie et nous avons des températures qui sont idéales pour la reproduction de ces mouches. Deuxième facteur, les matières sur lesquelles ces mouches se reproduisent sont assez présentes. Vous avez des végétaux qui se dégradent, donc ces pourritures attirent les mouches et l'essentiel des mouches, donc qui viennent se pondre dessus et le développement va très vite. Compte tenu du fait que ces mouches se développent dans des milieux qui ne sont pas salubres, le potentiel de transmission de pathogènes à travers ces mouches, c'est très élevé. Et si la mouche tombe dans une source de nourriture, on peut avoir des perturbations gastriques comme des diarrhées. Pour éviter aux mouches de se déposer sur ces sources de nourriture ou les ustensiles de cuisine, c'est la protection d'abord des sources de nourriture en les fermant bien. Si vous avez des animaux qui meurent, il faut vraiment trouver une astuce ou pour les incinérer ou bien pour les enterrer de façon à ce que quand les mouches vont émerger de ces animaux morts, les mouches ne vont pas revenir directement dans vos habitations.
Les points focaux de 17 pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel sont en réunion depuis ce matin à Niamey. Cette rencontre en prélude de la COP26 vise à travers les échanges de dégager des mécanismes pour encadrer le fonds vert pour le climat. Issoufou Brema, coordinateur de la Commission climat pour la région du Sahel, que je vous propose d'écouter.
La seconde journée de la présente rencontre sera consacré aux échanges sur les mécanismes importants pour la mobilisation des ressources définis dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il s'agit du fonds vert pour le climat. Ce fonds, faudrait-il le rappeler, il est d'une complexité d'accès qui tend à le rendre inefficace et inadapté aux enjeux et aux défis auxquels font face en particulier les pays africains. Nous devrons avoir une position commune sur toutes les questions cruciales, définir en effet les mécanismes adaptés devant encadrer l'aide financière aux pays en voie de développement, l'indemnisation des pays vulnérables pour les pertes économiques subies à raison du changement climatique. Cet appel constitue un important instrument de plaidoyer pour les pays membres de la CCRS en prélude au sommet des leaders mondiaux prévu se tenir le 1er et le 2 novembre 2021 à Glasgow, au Royaume-Uni, en marge de la COP26.
Des propos recueillis par Rukayetou Abdrahman. Je vous l'annonçais dans les titres. 277, c'est le nombre des personnes déplacées de Bani Bongo qui sont arrivées samedi à Baleyara, région de Tillabéri, des suites de récentes attaques du village de Dekoukou par des hommes armés non identifiés. Parmi ces déplacés, des femmes devenues chefs de famille et des enfants qui sont dans des conditions très difficiles. Écoutons leur témoignage au micro de Hassan Moumouni.
Nous avons fui l'insécurité car les attaques des bandits sont récurrentes dans la zone. Il y a eu des personnes tuées, des greniers brûlés. Ils ont aussi emporté des animaux. En plus, nous avons abandonné nos biens dans notre fuite.
Ces bandits continuent de tuer les hommes. Nous, les femmes et les enfants, nous n'avons vraiment pas l'esprit tranquille pour rester vivre ici. Nous sommes obligés de nous déplacer d'un village à un autre car nous ne pouvons pas rester sans nos maris. Nous souffrons énormément ainsi que nos enfants.
Ils vous trouvent vivant paisiblement dans vos villages pour vous violenter. Avant-hier, ils ont attaqué notre village, tuant environ 18 personnes et blessé 4 autres par balle. Nous avons dû quitter car même nos greniers ont été brûlés. Et sans vivre, nous ne pouvons que leur abandonner les lieux car ils peuvent revenir. En plus, nous ne pouvons plus cultiver. C'est donc sans espoir.
À l'initiative d'une ONG, les chefs traditionnels de Dosso sillonnent la région pour parler de la sécurité, selon le chef de canton de Harganassou. Selon lui, ces déplacements visent à prévenir d'éventuels problèmes puisque la région est frontalière de Tillabéri et du Nigeria, deux foyers d'insécurité. Sa Majesté Amadou Seyne Mega est au micro de Barham Hassoumi.
Une ONG sous la supervision du gouverneur de Dosso a réuni l'ensemble des chefs de canton de la région de Dosso pour les informer et les former sur les problèmes de sécurité. C'est pourquoi les chefs de canton ont été instruits pour sillonner leur canton, rencontrer les populations, les sensibiliser dans le domaine de la sécurité pour que chacun prenne conscience des dangers qui sont à notre porte. Nous, nous sommes limitrophes de Tillabéri vers l'ouest, vers le nord et limitrophes du Nigeria vers le sud. Au Nigeria, ça ne va pas. À Tillabéri également, ça ne va pas. Donc nous prenons des dispositions pour sensibiliser nos populations pour qu'ils ne soient pas complices de ceux qui aident les terroristes. Voilà l'objectif de notre sortie et nous avons sillonné une dizaine de villages.
La suite de ce journal, le manuel de procédure de traitement des plaintes des usagers du service public élaboré en 2015 par la médiature de la République, objet d'une rencontre ce matin à Niamey pour son amélioration. Cette rencontre est organisée par le médiateur de la République en collaboration avec DECAF. Sidiku Halidou, conseiller technique du médiateur, explique au micro de Salamat Kadri.
Le premier objectif, il y avait un manuel de procédure de traitement de plaintes au niveau du médiateur de la République qui a été édité en 2018. Donc selon les besoins du moment, il y a des modifications que le médiateur souhaite apporter à ce manuel. Donc les propositions de modifications ont été faites par les techniciens. Donc cet atelier-là, c'est pour valider ces modifications intégrées dans le manuel de traitement des institutions de médiation. Le deuxième objectif, comme vous l'avez constaté, c'est DECAF qui le finance et que DECAF intervient dans le secteur du gouvernance, du secteur de la sécurité. Donc ça va toujours dans le même sens parce que les thématiques qui seront débattues ici iront au-delà du manuel pour traiter des thématiques approfondies sur la gouvernance du secteur de sécurité, la sécurité holistique.
Un mot politique dans ce journal, la loi sur le quota au Niger concerne les deux sexes, mais avec l'application de celle-ci, on se rend compte que ce sont les femmes seulement qui sont concernées. Pour corriger cet état de fait et aller même au-delà du quota, les femmes ont organisé un forum pour se sensibiliser entre elles et mener des plaidoyers. Écoutons Safiatou Kindo, femme Kagalo et Madame Bachirou Zainabou, mère de Mehana au micro d'Evelyne Denzoubé.
Le quota là, quand il a été adopté, c'est pas uniquement à l'égard des femmes, c'est à l'égard des femmes et des hommes. Mais dans la pratique, on constate qu'on a attribué ce quota là aux femmes. Et nous, aujourd'hui, en tant que femmes combattantes, nous allons tout faire avec des stratégies pour pouvoir vraiment aller au-delà du quota. Nous sommes plus nombreuses que les hommes, il faut qu'on aille effectivement au-delà. Et pour cela, il faut que nous, les femmes, qu'on soit vraiment solidaire. Il faut qu'on s'aide. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on reproche à la femme, c'est peut-être le niveau intellectuel. Aujourd'hui, on en a. Et nous avons des enfants qui viennent. Donc, nous avons des cadres qui peuvent faire ce que les hommes sont en train de faire.
Pour aller au-delà du quota de sexe, c'est la solidarité qui prend. Parce qu'avec le poids démographique de la femme au Niger, si toutes les femmes se joignent à une candidate, sûrement elle va gagner. Ainsi, nous pouvons lever ce défi. Souvent, dans les foyers, les hommes empêchent aux femmes de postuler leur candidature. Donc, de ce fait, on peut plaidoyer auprès de son mari, le faire comprendre.
Le réseau des journalistes pour le développement de la statistique en collaboration avec l'Institut national de la statistique organise à Dosso un atelier de formation de 4 jours pour préparer le 5e recensement de la population prévu en 2022. Dalat Mamman, président du dit réseau, indique qu'ils feront des médias communautaires des partenaires incontournables dans le développement de la statistique. Il est au micro de Aoussi Abdrahman.
On va faire des radios communautaires un partenaire incontournable dans le développement de la statistique. Parce que les statistiques, ça doit être quand même, c'est des choses qui doivent être prises en compte à tous les niveaux. Qu'on soit commerçant, qu'on soit éleveur, qu'on soit homme d'affaires et dans n'importe quel secteur, on a besoin des statistiques là. Mais pour les utiliser, il faut bien savoir leur portée. Et pour savoir leur portée, il faut bien avoir des gens à côté pour expliquer aux gens, voilà l'intérêt des statistiques dans le secteur, en tout cas dans lequel vous opérez. Et nous avons ciblé des journalistes, des médias communautaires pour nous faire ce travail-là, nous en tant que réseau. Et nous attendons d'eux justement de réussir ce travail-là sur le terrain.
Place à présent à la partie magazine de ce journal. Tout fonctionnaire, officier public ou tout agent d'une administration qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux est passible d'un emprisonnement de 5 à moins de 10 ans et une amende de 20 000 à 1 million de francs CFA. Le juge peut prononcer la dégradation civique et partielle de ses droits, notamment la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, de privation du port d'armes, de tenir une école ou d'enseigner. La magistrate Goja Memoun Gazibo explique au micro de Balkissa Hamidou.
En matière de foi en écriture, le fonctionnaire reconnu coupable fera forcément la prison, car les fonctionnaires, officiers publics, agents ou proposés d'une administration reconnus coupables de faux et d'usage de faux dans l'exercice de leurs fonctions ne pourront bénéficier des dispositions relatives aux circonstances atténuantes ou au sursis, en application du Code pénal version 2018.
En quoi consiste la foi en écriture?
C'est l'altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et commise dans un écrit destiné ou apte à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des effets de droit.
Et quels sont les actes matériels constitutifs de faux en écriture?
Vous avez d'abord la falsification matérielle résultant de fausses signatures. Tous les documents dont les signatures ne sont pas authentiques. La contrefaçon ou l'altération d'écriture ou de signature. La fabrication d'actes ou conventions formant titre, addition, suppression ou modification apportée après la confection des actes ou écrits dans les déclarations ou fait contenu aux 10 actes ou écrits et qu'ils avaient pour objet de recevoir ou de constater. La fabrication ou dénaturation de la substance ou des circonstances des actes ou écrits effectués au moment de leur rédaction et réalisés en y portant des déclarations ou conventions autres que celles faites ou dictées par les parties ou en y altérant par des mentions fausses ou des omissions volontaires les faits que l'acte ou l'écrit avait pour objet de constater ou en y constatant comme vrai des vrais faux ou comme avoué des faux qu'il n'était pas. En deux mots, le faux, c'est lorsque vous dénaturez la réalité, lorsque vous fabriquez, vous inventez une version contraire à la vérité.
Quelles sont les sanctions prévues?
Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent ou préposé d'une administration publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 à moins de 10 ans et une amende de 20 000 à 1 million de francs CFA. Toute personne qui commet un faux en écriture publique authentique ou authentique est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an à 8 ans et une amende de 10 000 à 500 000 francs. Les personnes qui, par des déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou officier public ou un agent ou préposé d'une administration publique provoque l'insertion dans un acte public ou authentique d'énonciation contraire à la vérité sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 10 000 à 100 000.
Au rythme du Niger. Ici se referme à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre tout de suite les éditions d'information en langue nationale et à partir de 18h15, le forum du jour présenté par Fatih Zakari avec pour thème la réglementation des frais de scolarité dans les établissements privés au Niger. Bonne écoute.